On a dit qu'il faut de nouveaux moyens pour la jeunesse pour être attirée par Dieu. On va faire du nouveau. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, je vais faire pipi par le nez. Non? Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Avec ce qu'on a entre les jambes. Excusez-moi, hein, je suis du 12e arrondissement. Mon grand-oncle était sapeur-pompier de Paris. Mon père a passé au moins 10 ans à la caserne pendant qu'il était au collège et au lycée. Donc, je suis pas prude. Mais alors, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Ben, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est peut-être difficile à contrôler. On va peut-être distribuer. Si, dans les paroisses, on va être glacier. Mais glacier, non pas des glaces. Hein. On va faire de la glace. Et on va donner des seaux remplis d'eau glacée, avec des glaçons. On va produire des glaçons. Ça, c'est du nouveau pour la jeunesse, vous voyez. Pour empêcher le concubinage, on donnera à la fin de chaque messe un seau à glace, avec de la glace. Et à chaque fois qu'ils auront envie de ne pas respecter le mariage, ils se renversent ou ils s'assiedent dessus, je ne sais pas. Vous avez le secrétaire du synode, le cardinal Baldisseri, qui dit « Il y a ceux qui ne comprennent pas la morale de l'Église et qui... pour eux, c'est... Alors ils essayent de la respecter et ils se marient mal parce que ils sont comment dire vierges avant le mariage, ils se connaissent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter le bonhomme? Et voilà. Alors il y a ceux qui se retiennent et mais ça fait pas forcément des bons mariages. Mais qu'est-ce qu'il raconte, mon Dieu? Et il y a ceux qui peuvent pas se retenir. C'est ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des relations sexuelles. Oh mon Dieu. Ah ben, il faut déplacer l'Église catholique en Antarctique. Hein. Et encore, hein, les Esquimaux ont des enfants. Hein. Ça les empêche pas. Hein. Non mais c'est... On sombre dans le ridicule. Ça fait des siècles qu'on a des ennuis avec la sexualité. Ça fait des siècles qu'on se confesse, ça fait des siècles qu'on essaye d'être pur, et on continuera. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui ne vont pas balancer leur vie sexuelle à la tête des autres. Ah, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir des filles de 20 ans. Ah, moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis un homme, d'aller avec des hommes. Ah bon, c'est très intéressant. Oui. Et moi, je suis une femme, j'ai envie de vivre avec une femme. Mais de coucher dans le même lit. Ah, oui, ça s'appelle un coming out. C'est-à-dire, je sors du placard. Vous viviez dans un placard? C'est affreux. Ah oui, c'est vrai, là, il faut des changements. Il faut abattre ces murs qui éloignaient la jeunesse de l'Église. Mais c'est pas possible. Vous voyez, pendant des siècles, lorsque vous aviez des troubles, comment dire, de l'enfance, de l'éducation, personnelle ou autre, eh bien, vous les viviez dans la discrétion et la chasteté. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique de 92 dit très simplement. On n'a jamais lapidé les homosexuels ou suivant leur orientation sexuelle dans l'Église catholique, jamais. Qu'il y ait eu des pointes de puritanisme, qu'il y ait eu des violences vis-à-vis d'homosexuels par des baptisés catholiques, oui, mais jamais structurelles, jamais. Ben, allez en Arabie Saoudite, ou alors allez chez les merveilleux rebelles syriens, et vous verrez que si, quand ils chopaient un homosexuel, ben, ils le balançaient du haut d'un immeuble. Et voilà. Donc, comme... Voilà. Septième et dixième commandement, les biens matériels du prochain, le vol et la jalousie. Et ça, voyez-vous, parfois, vous voyez, je réfléchis, oui, parfois ça m'arrive, et il y a des révélations privées, tout ça, qui disent que c'est par la pureté qu'on se damne. Beaucoup se damnent par la pureté. Moi, je pense qu'on se damne par la pureté par l'abandon à la débauche et par le mépris de soi-même et de l'autre. Et donc, c'est pas tant une sensualité qu'un mépris. Celui qui aime finalement le péché d'impureté, celui qui s'en amuse, celui qui s'en délecte, celui qui en rit, celui qui use de l'autre, qui est cynique. Moi, pour moi, c'est la sexualité cynique, la sensualité cynique qui damne. Et donc, ce n'est pas la sexualité ou la sensualité qui damne, c'est le cynisme qui damne. Voilà mon opinion sur la pureté. Parce que en matière du 7e et 7e commandement, waouh, l'argent, le confort personnel, voyez, votre compte en banque, le nombre d'euros que vous avez, le nombre de billets que vous avez, le nombre de pièces d'or que vous avez, le nombre de votre propriété, ça déchire les familles. La première cause de haine entre frères et sœurs, c'est l'héritage. La jalousie aussi. La jalousie des dons personnels. Vous avez quelqu'un qui est heureux et vous avez une autre qui est amère. Eh bien, la personne amère va poursuivre de sa vindicte la personne heureuse parce que jalouse. D'où le 8e commandement qui est la loyauté et la réputation du prochain par rapport au mensonge. La calomnie, c'est le mal faux. La médisance, c'est le mal vrai. Les commandements de l'Église, c'est de nos jours, il ne reste plus que le mercredi des cendres et le vendredi saint pour le jeûne. Et le jeûne catholique, c'est-à-dire un bol et une tranche de pain sans beurre ni confiture. Un repas sans viande et une soupe le soir. C'est pas mal, hein. Vous avez des gens qui jeûnent toute leur vie, alors. Hein. Voilà. Les commandements de l'Église. Le péché, les vices et les péchés capitaux. Donc, page 300. Les péchés capitaux sont l'orgueil, c'est la question 428, donc pour les petits-enfants, hein. Les enfants de 8 ans. Hein. Combien y a-t-il de vices principaux? Il y a 7 vices principaux, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Voilà. Et donc, vous comprenez pourquoi les enfants, dans les cours d'école, se respectaient mieux dans les années 30 que maintenant. Page 391, la journée du chrétien, donc ça c'est la prière. Ensuite, en plus, la Sainte Bible, les prières diverses, le rosaire, le Saint Sacrifice de la Messe, c'est-à-dire le canon romain, la prière une en français, le canon romain en latin, visite au Très Saint Sacrement, avec des prières propres au Saint Sacrement, et un examen de conscience qui, de nos jours, ferait frémir un séminariste. Et si on demandait à certains prêtres de se confesser selon ces trois petites pages, ils diraient mais c'est du puritanisme, c'est méchant, c'est du moralisme. Mais oui, c'est du moralisme. Et donc, pour achever cette séance de catéchisme, je vous redis donc ce plan. Suivant le plan du petit trésor des catéchismes diocésains de l'abbé Jean-Pierre Putois. Première partie, la vertu de foi et les vérités que nous devons croire. Le symbole des apôtres. Le je crois en Dieu et toutes les vérités du je crois en Dieu jusqu'à la résurrection, l'Église. Deuxième partie, la vertu de charité et les devoirs que nous devons pratiquer, les commandements et les conseils évangéliques. Première section, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième, septième et dixième, huitième commandement, les commandements de l'Église et les conseils évangéliques. Vous voyez, ça c'est plus complet. Conseil évangélique, c'est la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Et qu'on enseignait tout ça, bien, il y avait un peu plus de moines et de moniales, de religieux et de religieuses. De nos jours, on est comme au temps de Saint Paul, c'est-à-dire qu'on va rester célibataire sans devenir moine ou religieux, ou religieuse ou moniale, et vivre suivant la vertu chrétienne. Mais comme on n'a plus développé et on a même presque repoussé les vocations, voyez, actuellement, n'ont de véritable vocation que celles et ceux qui offrent une vraie vie de prière. Si vous êtes en civil, et si vous avez une vie de célibataire endurci, les gens disent « je préfère quitter être célibataire, je préfère avoir une piété » moins profane que celle que vous me proposez, presque. Vous voyez, les Xavières, actuellement, elles ont toutes 85 ans. Et comme elles sont un peu intellectualistes, vous en avez une ou deux de 35 ans, énarques ou normaliennes. Mais c'est pas ce qu'on appelle un délire religieux, hein, une vocation merveilleuse, hein, un succès fantastique. Voyez. Deuxième section, ce que le chrétien doit éviter, ou du péché ou de ses remèdes. Le péché en général, les espèces de péchés, les péchés capitaux et les vertus opposées, de quelque autre péché. Troisième partie, la vertu d'espérance et les moyens que Dieu a établis pour nous sanctifier, la grâce, la prière et les sacrements. Donc là, c'est un parti pris, si vous voulez, où on commence par la foi, puis ensuite la morale, et ensuite les sacrements, où on a la foi, les sacrements ou la morale. Et alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? C'est qu'en fait, il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il nous aime, que nous sommes les uns et les autres des enfants de Dieu, et nous sommes des frères et sœurs, que Dieu nous demande, Dieu nous aide à l'être, voyez, et nous donne sa grâce, et que ça se concrétise par des actes qui nous sont précisés par les 10 commandements. Et vous remarquerez que même si on introduit les béatitudes ou les conseils évangéliques, on ne peut pas faire de vérité religieuse sans les 10 commandements. On a beau tourner autour du pot, on aura toujours les 10 commandements à vivre. Et les 7 péchés capitaux à éviter. Or actuellement, un des grands péchés qu'on cultive, c'est la paresse. Le Canada vient de voter le cannabis en vente libre. Bon, et ben c'est la paresse en vente libre. Ça va propager une paresse dans tout le tissu social canadien. C'est normal. Et donc, tout cela, ça vous montre quand même le combat qu'il y a. Alors, pour terminer, il y avait certains d'entre vous, je ne sais pas s'ils étaient là la dernière fois, j'ai le résumé d'Histoire Sainte, mais ici fait par l'abbé Putois. Donc, je vais vous demander de le distribuer. Voilà. Et je vais le lire pour vous achever. À moins que ça se reproduise exactement ce qu'on avait pris la dernière fois. Est-ce que quelqu'un a ce qu'on avait la dernière fois? Non. Ah, intéressant. C'est parti. Ancien Testament. Au commencement et avant tous les siècles. Mais c'est, vous allez voir, c'est très drôle parce que c'est du vieux François avec des termes extrêmement caustiques. C'est très drôle, vous allez voir, c'est drôle. Au commencement et avant tous les siècles, de toute éternité, Dieu était. Et il était Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, Esprit bienheureux et tout-puissant. Parce qu'il est bienheureux, il n'a besoin de rien hors de lui-même. Il n'a besoin que de lui-même. Et parce qu'il est tout-puissant, il peut créer tout ce qu'il veut, tout ce qui lui plaît. C'est joli, hein, Mandy. On dit, ah, vraiment, c'est le Dieu. C'est Dieu pas gentil, quoi, le Dieu capricieux. Ainsi, rien n'existait que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le reste que nous voyons et que nous ne voyons pas était dans le néant, n'était rien du tout. Impressionnant, hein? Ça vaut un an d'exégèse, comment dire, un an d'exégèse sur la licence d'exégèse de l'Institut catholique de Paris. Parce que comme on est en train de discuter que Dieu avait la nécessité de créer tout ça, vous voyez, on part sur du faux. Dieu créa donc au commencement le ciel et la terre, les êtres visibles et invisibles, la substance spirituelle et la substance corporelle, et l'ange aussi bien que l'homme. Dieu commanda et tout sortit du néant à sa parole. Il n'eut qu'à vouloir et aussitôt tout fut créé. Et chaque chose rangée à sa place. La lumière, c'est-à-dire la matière, hein, qui s'entrechoque. Le firmament, c'est-à-dire les étoiles et les planètes. Le soleil et la lune, notre système solaire. Les astres, pour notre système solaire, ce que nous voyons. Hein. La terre et la mer, là c'est sur la planète Terre. Les plantes, les animaux et enfin l'homme. Il lui plut de faire le monde en 6 jours. La durée de ces jours ou temps ne peut être fixée. On lit en note. On croit communément aujourd'hui que ce sont des périodes ou des progrès de plusieurs siècles. Note du catéchisme du diocèse d'Avignon de 1910. Il est bien évident que ce ne sont pas des jours de 24 heures. Puisque c'est au troisième temps de la création qu'il y a le Soleil pour le système solaire et pour la planète Terre. Donc ce n'est pas des jours de 24 heures. C'est jours au sens ancien du terme, c'est des temps. Oui. À la fin du sixième jour, il fit l'homme à son image et à sa ressemblance, en lui créant une âme capable d'intelligence et d'amour. Et il voulut qu'il fût éternellement heureux s'il appliquait tout entier à connaître. S'il s'appliquait tout entier à connaître et à aimer son Créateur. En même temps, il lui donna la grâce de le pouvoir faire. Le bonheur éternel de l'homme devait être de posséder Dieu qu'il avait créé. S'il n'eût point péché, il n'eût point connu la mort, car Dieu avait résolu de le conserver immortel en corps et en âme. Ça, c'est plus du tout enseigné, hein, l'immortalité primaire de la nature humaine. Dieu créa pareillement la femme, il l'appela l'homme Adam et la femme Ève, et il voulut que tout le genre humain naquît de ce premier mariage. Vous savez, tous les mots sont pesés. Vous vous rendez compte, vous avez des dizaines d'évêques et des siècles derrière ça. Il mit nos premiers parents dans le paradis, c'était un jardin délicieux, pas au sens moderne du terme délicieux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient y vivre. Et pour montrer qu'il était leur souverain, il leur donna un commandement, qui fut de ne pas manger du fruit d'un certain arbre. Dieu appela cet arbre l'arbre de la science du bien et du mal. Le bien était de demeurer soumis à Dieu, et le mal devait paraître si l'homme désobéissait au commandement divin. L'homme avait été créé bon et saint, mais il n'était pas pour cela incapable de pécher, ni absolument parfait. Le démon le tenta, il désobéit à Dieu et mangea le fruit défendu. Aussitôt Dieu prononça son arrêt de mort. Alors, vous voyez, on n'est pas dans le bisounours. Hein, c'est... Et par un juste jugement, son péché devint le péché de tous ses enfants, c'est-à-dire de tous les hommes. Puisque notre ancêtre devait mourir et qu'il n'est pas mort, ben, nous sommes en sursis. Et on n'aurait pas dû vivre. Si Adam était mort, on ne serait pas là pour le dire. Hein. Et Jésus est mort à la place d'Adam. Et donc pour tous ses enfants. Aussitôt, c'est-à-dire de tous les hommes, il fut assujetti à la puissance du démon parce qu'il s'était laissé vaincre. Et Dieu le chassa de son paradis. Mais en même temps, touché de pitié, il lui promit que de sa race naîtrait un sauveur, par qui l'empire du démon serait détruit et l'homme délivré du péché et de la mort. C'est le Christ ou le Messie qui devait naître au milieu des temps. Les hommes ainsi corrompus dès leur origine devenaient plus méchants à mesure qu'ils se multipliaient. Cain, l'un des fils d'Adam, tua son frère Abel, le juste, dont il était jaloux, et sa postérité imita ses crimes. Dieu donna Seth à Adam au lieu d'Abel. La connaissance et le service de Dieu se conservèrent dans la famille de Seth, jusqu'à ce que cette famille bénie, s'étant mêlée avec celle de Cain, méchant et maudit, tout le genre humain fut corrompu à nouveau. Alors Dieu résolut de faire périr tous les hommes par un déluge universel, en réservant seulement Noé avec sa famille, afin de repeupler de nouveau la terre. Avant que d'envoyer le déluge, Dieu ordonna à Noé de faire un grand bâtiment de bois en forme de coffre, qu'on appela l'arche, et il y enferma Noé avec sa famille et des animaux de toutes les espèces, du Tigre et de l'Euphrate, d'où ils étaient. Il n'a pas inondé toute la terre. Les eaux s'élevaient par toute la terre jusqu'à... Alors ici, voyez-vous, par toute la terre connue. Le concordisme ou le crombétisme aussi, c'est un préposé des postes qui s'est intitulé théologien et exégète, crombète, qui lui dit « Non, toute la terre a été submergée, tout ça. Dans l'arche, il y avait tous les animaux d'Australie qui sont venus en courant, tout ça. » Enfin voilà. Il faut faire attention. Mais en même temps, voyez-vous, ce qui est historique, c'est que la nature humaine repart de Noé et de ses enfants. Et vous allez le voir. L'arche protégée de Dieu voguait au-dessus. Noé en sortit quand la terre fut desséchée, un an après qu'il y était entré. La première chose qu'il fit fut d'élever un autel et d'offrir à Dieu un sacrifice en action de grâce. Alors vous allez me trouver lourd, comme la dernière fois. Nous sommes tous issus de la même souche humaine. Que ça vous plaise ou non, l'histoire du déluge, c'est pour nous. Nous avons tous le même ADN, nous avons tous les mêmes mitochondries, nous venons tous de la même race. Qu'on soit jaune, vert, bleu. Oui. La terre se repeupla d'hommes et d'animaux, et toutes les nations descendent, se formèrent des trois fils de Noé. Sem, ça vous donne les Sémites. Je peux vous assurer qu'en ce moment, l'historicité du sémitisme et de l'antisémitisme, elle est claire et nette. Vous voyez ? Là, pour le coup, personne, beaucoup y croient, hein, et fortement. Et vous avez en Arabie Saoudite, vous avez des sémites. Ils ne sont pas tous arabes. Vous voyez ? Il y a des souches sémites et des souches cananéennes dans l'Arabie. Vous voyez ? Sem, Cam et Japhet, en s'éloignant des commencements, les hommes oubliaient Dieu, qui avait fait le ciel et la terre, et les avait faits eux-mêmes. On adora les créatures que l'on vit quelque chose, où l'on vit quelque chose d'excellent, comme les astres, le ciel, les hommes extraordinaires. Et l'idolâtrie commença à se répandre par tout l'univers. La véritable religion ne laissait pas de se conserver avec la mémoire de la création du monde. Les hommes se la transmettaient les uns aux autres, et comme de main en main. C'est ce qu'on appelle la tradition adamique. Mais de peur qu'avec le temps elle ne se perdît tout à fait au milieu de tant de corruption, Dieu appela le patriarche Abraham, né de la race de Sem. Il fit alliance avec lui, en lui promettant d'être son Dieu et le Dieu de sa postérité, à condition que ce patriarche et ses descendants lui seraient constamment fidèles. Il était descendant aussi d'Héber, Sem, Héber, Abraham, ce qui donne le mot hébreu. La circoncision fut établie comme le sceau de l'alliance. Abraham fut introduit dans la terre de Canaan, que Dieu lui promit de donner à sa postérité. C'est la terre que nous appelons la Judée, la Palestine ou la Terre Sainte. Dieu y voulait être servi par les descendants d'Abraham. Pour combler ce patriarche de ses grâces, il lui promit de nouveau le sauveur du monde, qui devait naître de sa race, et par lequel toutes les nations de la terre, après s'être longtemps égarées, devaient retourner un jour au vrai Dieu qui avait fait le ciel et la terre, les hommes et les animaux. Dieu confirme son alliance et la promesse du Christ qui devait venir à Isaac, fils d'Abraham, et à Jacob, son petit-fils. Il donne à Jacob le nom d'Israël. Abraham, Isaac et Jacob vécurent dans la Palestine sans y avoir de demeure fixe. Leur vie était simple et laborieuse. Ils nourrissaient de grands troupeaux. Dieu bénissait leur travail parce qu'ils le servaient. Et ils étaient respectés des princes et des habitants du pays. Jacob eut 12 enfants, qu'on appelle les 12 patriarches, c'est-à-dire les premiers pères des Israélites, et la tige de leurs 12 tribus. C'est de là que sont sortis les Israélites, et on les appelle aussi les Hébreux. Alors, comme il est tard, je vais arrêter là. Mais tout cela, vous voyez, c'est l'historicité de la foi chrétienne. Donc, la prochaine fois, nous terminerons cette lecture de l'histoire sainte rapide pour avoir un peu aussi une petite présentation, si vous voulez, de la morale. Avant de la voir aussi dans l'histoire de l'Église et des conciles. C'est-à-dire comment l'Église a présenté la foi à travers les siècles. Vous voyez, les hérésies, la divinité du Christ, la divinité du Saint-Esprit. Et nous verrons justement comment la foi du catéchisme a été affirmé à travers les siècles. Vous voyez, pour aller un peu plus haut quand même que le catéchisme pour enfants.